Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Heureuse de vous retrouver pour ce 11h midi, débat avec vous pour les sujets d'actualité. Avec aujourd'hui Sophie de Menton qui est restée. Bonjour, bonjour Sophie, vous êtes chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Lunise Marquis, bonjour, merci bonjour. D'être avec nous. Vous êtes consultante en relations publiques. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve également tous les mardis sur Sud Radio pour l'édito politique. Et puis vous participez également au tour de table de Patrick Roger et Cécile de Bénibus. Le lundi matin et peut-être d'autres jours dans la semaine. C'est le mardi. Zoom est en Zoom avec nous. Jean-Luc Benamias depuis Marseille. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Ça a été au moins un des effets positifs du Covid, c'est qu'on a un peu tous découvert le Zoom et que maintenant on peut avoir plus de gens en région. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous êtes toujours membre du Conseil économique, social et environnemental, si je ne m'abuse.
Un petit mot pour Lunise Marquis, tu vas voir. Lunise, ça va très bien se passer.
Merci. Vous connaissez.
Merci beaucoup Jean-Luc.
Ah, on n'entend plus Jean-Luc, je ne sais pas où il est. Où il est passé.
C'est bon, je suis là.
Vous êtes là. On va parler des tests et du scandale quand même de ces queues interminables pour se faire tester. Et puis d'abord, faut-il se faire tester? On va parler de délinquance, d'insécurité. Est-ce qu'il y a un déni de l'État? Et puis les masques obligatoires, est-ce que vous êtes prêts? On en a un petit peu parlé, mais on va en redébattre ensemble. Non, on ne déroge pas aux bonnes habitudes. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention. Ça va être sportif pour commencer. On va commencer avec Jean-Luc Benamias. C'est un coup de cœur. Ouais,
la victoire hier de Julian Alaphilippe. Alors, ce n'est pas très nouveau que Julian Alaphilippe gagne des victoires, mais dans un Tour de France un peu spécial, car chacun sait qu'on n'est pas en juillet en ce moment. On démarre fin août, on va démarrer en septembre. Donc, Tour de France spécial. Et le fait que Julian Alaphilippe ait gagné hier et reprenne le maillot jaune, bon, j'aime bien avoir quelques idées parfois positives dans un monde qui ne plaît pas tellement, c'est le moins qu'on puisse dire, et dans une période qui est assez délicate et difficile, voilà. Donc, et je rajouterai à ça la victoire, la cinquième victoire d'affilée des filles de l'Olympique lyonnais.
C'était le coup de cœur de Lunise, vous êtes en train de lui piquer, hein, Lunise Marquis. Non, mais c'est pas grave. On sent que voilà, le sport, effectivement, peut être source de joie en cette période un peu compliquée. Donc la victoire de Julian Alaphilippe, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Et vous, c'était les filles de l'OL qui
exactement,
vous ont.
Exactement, c'est mon coup de cœur, tout simplement, parce que ces filles sont exceptionnelles. C'est leur 7e coupe de la Ligue au niveau européen. Là, c'est leur 5e consécutive. Et vraiment, que ce soit Wendy Renard, que ce soit toutes les joueuses, elles sont exceptionnelles. Et un autre mini coup de cœur, c'est que mercredi, il y a un film qui va sortir sur cette équipe merveilleuse de l'Olympique lyonnais qui s'appelle Les joueuses pas là pour danser, réalisé par Stéphanie Gillard. Donc je vous invite tous à aller le regarder.
Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on commence à s'intéresser un petit peu plus au foot féminin. Là, on va passer aux choses un peu plus désagréables. Alors, c'est bien parce que ce tour de table, ça nous permet aussi de parler de choses dont on parle un peu moins dans les médias. Alexis Poulain, c'est effectivement...
C'était sur une nouvelle vidéo de souffrance animale dans un élevage de fourrures. Il en existe encore 4 en France. Élevage de visons où on voit des animaux dans leur déjection, qui ne peuvent plus marcher, à moitié morts. Avec une pétition de One Voice pour fermer ces élevages qui sont uniquement pour la fourrure. On pensait qu'on n'en avait plus sur le territoire, mais voilà. Et on découvre que les animaux sont extrêmement maltraités. Tout ça en plus au service de la vanité, puisque la fourrure, on peut acheter des manteaux de fourrure d'occasion si on a envie de fourrure. Il y en a plein dans les friperies, plutôt que d'acheter du vison au prix de la souffrance animale.
C'est une très bonne réflexion, parce que surtout pas acheter de neuf, parce que dans l'esprit, voilà. D'un autre côté, quand on a de la fourrure, moi j'en ai même hérité, bison de maman. On se fait agresser dans la rue de toute façon.
Oui, après, il y a le risque de porter son manteau de fourrure.
Mais
pour ceux qui voudraient de la fourrure,
on va en reparler. Ce matin, Julianne Normandie s'est exprimée sur la cruauté envers les animaux. Il faut effectivement que les choses changent et évoluent. Sophie, dans un instant, ce sera votre coup de gueule. Moi, je voulais pousser un coup de gueule aussi. Bon, on l'a évoqué tout à l'heure sur l'incohérence. Enfin, Elisabeth Borne qui nous annonce tout et son contraire à propos des masques. Moi, c'est sur l'aéroport. J'ai fait l'expérience de partir à l'étranger, de revenir, enfin pas très loin, en Europe. Quand on arrive à Orly... on se retrouve dans un couloir où tous les vols convergent. Vous avez des vols qui arrivent d'Ajaccio, d'autres qui arrivent d'Espagne, d'autres qui arrivent de Tunisie. Donc il y a du Schengen, du non-Schengen, des vols locaux, des vols nationaux. Et je me suis retrouvée, moi, dans ce truc en me disant, mais je vais où Schengen, non-Schengen, etc. Et je vois nationaux, je me dis, ben, moi, je suis nationale, donc je vais... Donc, je suis passée dans cette file où j'ai eu zéro contrôle. Donc, n'importe qui peut passer du côté nationaux. Il n'y a pas de contrôle de passeport. Je trouve ce bordel absolument ahurissant.
Non seulement je valide Paris. Parce que j'ai vécu la même chose en rentrant de Grèce, mais après, vous vous retrouvez pour chercher les valises. Ouais. Et alors là, absolument. C'est un heureux mélange de toute façon, ouais. Où il n'y a absolument aucun contrôle. Sauf que moi, j'ai eu des contrôles antiterroristes, là. Bon, ouais. Après tout, pourquoi
c'est
pas
déjà, mais... C'est déjà ça. Mais vous confirmez, Lénise Marquis. Vous avez eu des retours
là. Je confirme que souvent, quand on revient des aéroports, il n'y a pas de contrôle et surtout, il y a des files très longues où on ne peut même pas respecter la distanciation physique.
Les gens sont très masqués quand même, ça, heureusement.
Heureusement. Ouais. Mais ça, c'est un vrai problème parce que on se retrouve tous mélangés. Il n'y a pas vraiment d'indication. Normalement, il y a 16 pays qui devraient être contrôlés plus. Absolument. On ne sait pas comment ils sont contrôlés. Donc voilà, c'est une vraie inquiétude.
Il y a un organisme qui est chargé de donner les statistiques des contrôles aux aéroports, qui est fait pour ça. Personne n'a jamais eu le moindre écho de ces contrôles. Combien de personnes rentrent, combien sont testées, etc. C'est invraisemblable.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'on voit dans certains pays où il y a des contrôles qui sont mis en place de façon extrêmement stricte,
la
avec
Grèce
des caméras.
Hein.
L'Espagne aussi contrôle la température, vous remplissez des questionnaires. Enfin, il y a une sorte, ça évoque un petit peu ce qu'on disait avant, c'est-à-dire sur ce que fait le gouvernement, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est encore dur en même temps.
On part de loin, parce qu'à l'époque où déjà tout le monde avait mis des mesures dans les aéroports, on avait Gérald Darmanin qui était encore à Bercy, qui était avec les douaniers, qui était seulement ganté, qui ouvrait les sacs pour voir s'il y avait du virus dans les sacs. Donc quand même, on a un peu évolué par rapport à la fouille au sac pour trouver du virus. Ouais. Mais on est loin du compte. Ouais, et c'est pour ça que c'est étonnant de voir les amendes qui s'accumulent, le fait qu'on arrête des citoyens parce qu'ils portent mal le masque, alors qu'en réalité, c'est d'un laxisme total ce qui se passe.
Jean-Luc, Benamias, un mot, Marseille, ça se passe comment ?
J'ai du mal avec cette histoire de masque depuis début janvier. C'est un sketch à rallonge. Le sketch... Ouais. Alors, j'ai fait des tweets, moi, pendant quelques semaines, puis j'ai arrêté parce que c'est infernal. C'est toujours plus tard, c'est toujours jamais, c'est toujours... Tout est contradictoire, vous l'avez dit, Elisabeth Borne, c'est contradictoire, on ne sait plus dans l'entreprise si oui ou si non. Dans les aéroports, on sait que les tests, enfin les contrôles sont assez laxistes, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, et pendant ce temps-là, dans la rue, on a encore vu des images hier... que ce soit à Nice, d'ailleurs, pendant le Tour de France, ou des images à Paris, où, pour contrôler les gens, on voit des policiers avec des fusils mitrailleurs.
Pas ça, ça, mais le virus a peur.
Pour contrôler les gens avec des fusils mitrailleurs. Ouais. Mais clairement, hein, voilà. Donc moi, j'en ai assez par rapport à cela. Je pense que les distances de sécurité sont absolument nécessaires, que mettre le masque en milieu confiné, c'est absolument essentiel. Pour le reste, moi, ce délire complet qu'on a vécu pendant tout le mois d'août, j'en peux plus. Ouais. Et je pense que je suis pas le seul.
Non, on va reparler donc de oui,
Lénise Marquis. Juste un petit mot pour les fusils mitrailleurs, c'est parce qu'on est toujours sur la lutte antiterroriste. Et donc les policiers ont en général dans la rue des fusils mitrailleurs.
Des fusils mitrailleurs, voilà. Pas tous, mais.
Oui. Devant un bar, c'est pas très utile.
Bah oui, mais ça dépend qui fait le contrôle. Parfois, certains sont effectivement des vigipirates qui lutte antiterroriste.
Non, les vigipirates. Pardon, Valérie. Oui. Les vigipirates ne font aucun contrôle. Ah bon. De ce genre. Aucun.
D'accord. Mais contrôle antiterroriste. Moi, hier, j'aurais pu être terroriste. Je serais rentré sur le territoire sans qu'on contrôle mon passeport ni quoi que ce soit. Hein. J'ai trouvé que c'était assez laxiste. Alors, Sophie, vous vouliez revenir sur la polémique entre Valeurs Actuelles et Daniel Obono.
Oui. C'est vrai qu'il y avait deux sujets. Je voulais revenir sur cette polémique et puis je voulais un coup de gueule sur la Poste.
Ah oui, c'est vrai.
ce qui pas tout à fait pareil, aussi. Mais quand même la Poste peut pas laisser. Oui. On reviendra sur Obono, mais la Poste peut pas laisser passer parce que les entreprises souffrent, elles sont en difficulté économique.
Mais les particuliers aussi.
Oui, je parle économiquement. Oui. Les particuliers aussi d'ailleurs, parce qu'ils font des demandes de prêt 3 semaines pour arriver, pour avoir une réponse à cause de la Poste. Les horaires d'ouverture sont aberrants. La Poste, là, dans mon quartier, c'est 13h, 18h30. Nous avons des courriers bloqués, des retards de chèques. Quand vous demandez les courriers, on vous dit ah ben, ils sont stockés quelque part, on ne sait pas. Ils n'ont pas rattrapé le confinement. des entreprises qui me disent on attend des retours pour des prêts postaux depuis le 20 août, des erreurs de distribution en permanence, le turnover des facteurs, il paraît qu'il n'y en a pas assez, donc ils font des tournées, voilà. Maintenant, les avis de passage pour les lettres commandées, on les met directement dans la boîte aux lettres parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre et de sonner. Donc vous êtes obligé d'aller à la poste qui est fermée.
Qui est fermée, oui, c'est presque un sketch de Fernand.
Par rapport à ça, en plus, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'on augmente les tarifs pour compenser les baisses de volume. Parce qu'il y a moins de courriers, forcément. D'ailleurs, on ne le distribue pas, donc on augmente. Suivi, il y a un fameux suivi postal, il est inexistant. Par contre, ils ont des activités intéressantes, ils vendent des portables.
Ouais.
Alors ça, c'est les services publics qui vendent des portables, bon, pourquoi pas. Et puis, ils soutiennent Agir pour le vivant, un festival. Ils ont des food trucks, qui sont des camions de financement. Les food trucks se promènent, les camions de financement de la Poste.
Non, mais c'est vrai.
Quant à Colissimo, et j'ai fini, c'est un drame.
Ouais.
Donc, la Poste, en France, ne fonctionne pas. J'en ai assez de cette fonction publique et de service public qui n'a que ce
on
mot.
Veut bien, mais moi, je veux bien qu'un responsable de la Poste vienne nous expliquer ce qui s'est passé.
Oui, alors,
pourquoi une lettre postée de Nantes le 8 août arrive le 25 août ?
Insensé.
Pourquoi est-ce qu'un courrier qui a été posté le 28 juin n'est toujours pas arrivé ?
Et alors
on vous répond, est-ce que c'était en suivi ? Alors,
oui.
Moi, je poste mon courrier normalement. C'est-à-dire qu'il faut payer
maintenant,
plus.
Maintenant, il faut être suivi.
Et même en suivi, moi, j'ai un ami dont le courrier a été perdu.
Et là, j'ai tweeté ça, pas contente du tout. Et on m'a répondu, un tweet très gentil, en disant dites-nous de quoi il s'agit. Et puis voilà le numéro où protester. Alors j'ai dit que j'étais sûre que ma protestation allait changer les horaires de la Poste et que je n'allais donc pas manquer de protester.
Oui, bien sûr, protestons.
Et protestons. Mais vraiment, sérieusement, ce n'est pas possible. Et on a des administrations qui ne fonctionnent pas. On fait la parenthèse sur la santé. Ça ne fonctionne pas.
Oui. On va marquer.
Le problème de la Poste, c'est que ça n'est plus un service public.
Oui.
Mais non.
Depuis les initiatives de l'Union européenne, c'est un service qui passe au fur et à mesure au privé.
Ouais, c'est ça. C'est parce que ça passe au privé que c'est pas bon.
Bah, non, mais
non, pas du tout. C'est pas ça que je dis. C'est que arrêtons de taper sur une idée de service public. Il y en a plus par rapport à cela. Et donc la Poste se diversifie. Bon, c'est vrai qu'il y a absence de courrier, on est d'accord. Mais la Poste fait tout maintenant, puisque la Poste va aider les gens, les personnes très âgées. La Poste amène à manger à d'autres personnes qui ont besoin qu'on les serve.
C'est plus vrai.
La Poste fait un certain nombre de services qui ne sont pas les services qu'on a connus.
C'est vrai, mais c'est plus vrai.
Et la Poste aussi, les statuts des salariés ont complètement changé. Quand, Sophie, tu parles du salarié et du postier, on n'a plus le postier qu'on connaissait.
Il nous connaît
plus.
Il sait plus qui on est.
Oui, mais pourquoi ?
Parce que ça a été diversifié, parce qu'on embauche des intérimaires.
Voilà. Allez, on est obligé de marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi, heureuse de vous retrouver, 0826 300 300. On attend vos réactions sur les différents sujets que nous allons aborder, entre autres les tests. Est-ce que vous avez essayé de vous faire tester? Est-ce que vous allez vous faire tester? Et juste avant, je voudrais qu'on revienne quand même sur la... Vous êtes fait tester, vous, Lunis?
Oui, la prise de sang.
Prise de sang.
Et je l'ai fait en juin et j'ai dû attendre 2 heures quasiment devant mon centre d'analyse.
Ah oui, mais attendez, ne pas confondre. Oui. La prise de sang, c'est pour voir si vous avez des défenses immunitaires et que vous avez eu, sans le savoir, le virus. Donc, voilà, on se fait tester, mais c'est pas du tout... Si vous l'avez, le sérum ne vous le dira pas.
Oui. Le souci, c'était déjà l'attente. C'est-à-dire que peu importe, j'avais une prise de sang globale à faire, j'avais dedans par rapport au Covid. Et le problème, c'est que les files d'attente sont extrêmement longues. Donc, moi, je pense aux personnes qui ont juste à faire des bilans sanguins normaux.
Ils peuvent pas le faire.
Il n'y a pas des horaires, tests. Ah non,
c'est honteux, c'est un cluster. Vous avez 500 mètres de queue. Moi, je suis terrifiée. Je m'en vais de les queues parce que vous avez des gens qui, a priori, se sentent contaminés.
Alors, commençons par ce sujet. On reviendra. On va commencer là-dessus. Mais c'est vrai que là aussi, le gouvernement fait du en même temps. C'est-à-dire, il faut se faire dépister, mais en même temps.
Alors, c'est le privé qui dépiste. Alors là, il n'y peut rien, le gouvernement. Les laboratoires, les gens étaient en vacances. J'ai téléphoné pour voir ce qu'il en était. On n'a personne pour dépister. Ils sont en vacances. Et on comprend les malheureuses boîtes privées que sont les labos. Qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes à labo et il y a une queue de 500 mètres devant.
Il n'y a pas que ça. Il y a le problème de manque de réactifs. Moi, j'ai un ami qui sortait d'un cluster familial. Il a fait 8 labos pour se faire tester. Tous les labos étaient en fait en manque d'approvisionnement de produits réactifs pour avoir les résultats des tests, tout simplement. Donc on est alors pour les masques, ça y est, on est indépendant, on est autonome, donc il faut en mettre tout le temps. Par contre, pour les tests, c'est encore ça pêche un peu. Alors je sais pas si François Bayrou, dans son commissariat au plan, va relancer la production de réactifs.
Commissariat au plan, ça m'effondre.
Oui, mais vous dites c'est pas le gouvernement, les laboratoires, certes, sauf que quand on vous dit qu'il faut attendre, je sais quoi, 700 000 tests, c'est ce qu'on devait faire en sortie de confinement. C'est bien le gouvernement qui demande à ce que les tests soient faits.
Je suis tout à fait d'accord. D'où le problème, parce qu'aller dans les hôpitaux, on le déconseille vivement. Donc le gouvernement a dit qu'il donnait les tests. En principe, un gouvernement qui a la santé sous tutelle, parce que c'est bien une santé sous tutelle, devrait prévoir la façon de se faire tester. Mais il y aurait une première chose à faire qui est extrêmement simple, que devrait faire le ministère de la Santé. C'est premièrement tous ceux qui ont des vrais symptômes sur ordonnance, se font tester en priorité tout de suite. Parce que là, les gens, il y en a qui se font tester tous les trois jours. Hein. Oui. Parce qu'on vous teste négatif, vous pouvez être positif trois jours après.
Oui, absolument. Jean-Luc Benhamias, à Marseille, ça se passe comment?
Bien.
Bon, je vais aller me faire une prise de sang demain, parce que moi, je suis en suivi de chignon, j'ai déjà dit, donc je le répète, voilà, c'est jeudi. Donc, je vais faire une prise de sang. On verra bien. J'ai jamais fait la queue, moi, dans mon laboratoire. À Marseille.
Mais Jean-Luc, une prise de sang, pardonne-moi, mais ça n'a rien à voir. Tu ne te fais pas tester, tu fais tester, là.
Mais je n'ai pas dit ça, moi. Je vous écoutais sur la queue.
Oui, sur la queue, c'était ça aussi la question.
Ah ouais.
Donc, il n'y a pas la queue. Hein.
Il n'y a pas la queue à Marseille.
Je vous dirai la semaine prochaine, quand je referai sur la radio et l'émission de Valérie Expert, je vous dirai si j'ai fait la queue cette fois-ci. Mais jusqu'à maintenant, tous les deux mois, je fais ça, je ne fais pas la queue. J'arrive vers 9h30.
Mais on prend rendez-vous, surtout.
Non.
Sans rendez-vous. Sans rendez-vous. Ouais. J'attends les 3 minutes, 4 minutes, avec le masque, évidemment, parce que je suis en milieu confiné.
Oui. Lunise, Marquis.
Tu as beaucoup de chance de ne pas avoir à attendre, parce qu'à Paris, c'est un vrai cauchemar. Et surtout, c'est qu'il manque également de personnel dans les laboratoires. Je sais qu'ils ont ce souci-là et qu'ils se retrouvent à avoir des fils qui sont infinis. Et pour plusieurs sujets, il y a ceux qui doivent reprendre leur travail et leur patron leur demande de venir tests, avec le test. Il y a ceux...
On n'a pas le droit, hein.
Oui, mais...
Je précise quand même.
Normalement, on n'a pas le droit, mais c'est des demandes qui peuvent
être faites. Je précise aussi que le test sérologique est déjà quelque chose, savoir si vous avez ou non des défenses immunitaires. Oui. Ça se fait en pharmacie.
Maintenant, oui.
On va le faire en pharmacie, mais il faudrait des tests salivaires aussi. C'est ce qui est demandé.
Arriver, ça.
Mais c'est vrai que politiquement, on se dit qu'il y a encore un train de retard, que c'est mal organisé.
Est-ce que c'est tellement mieux organisé ailleurs? Alors là, on est en train de flinguer à tout va le gouvernement. Moi, je me demande quels sont les pays où ça a été tellement mieux, hein.
Je ne sais pas, en Allemagne,
peut-être. En Allemagne, ils sont en train de revenir en arrière
Sur
les tests par rapport à tous les tests qu'ils faisaient dans les aéroports, parce qu'ils sont en train de réaliser qu'ils vont peut-être pas en avoir assez pour la population.
Ah oui. Personne n'a été très bon dans cette histoire. Donc arrêtons aussi de nous flageller. Nulle part.
Nous, on était particulièrement médiocre dans le mensonge.
Mais après,
les masques servaient à rien il y a 3 mois.
Est-ce qu'il faut tester tout le monde?
Mais non. Il faut tester tous les deux jours.
Catherine Hill, l'épidémiologiste, dit qu'il vaudrait mieux tester des gens ciblés.
Bien sûr.
À faire une sorte de tableau de très précis de statistiques.
Et puis il y a un bon sens. Vous vous testez, on vous teste aujourd'hui, vous êtes négatif, vous allez dans un restaurant, vous prenez le métro, la semaine prochaine vous pouvez être positif. Donc il est absurde d'abord d'angoisser les gens, parce qu'il faut arrêter aussi cette angoisse permanente. On parle de sujets, il faut vivre normalement, avec conscience du risque qu'on peut représenter, qu'il peut y avoir. Et puis, alors le sérologique, vous pouvez y aller tant que vous voulez, vous faites piquer le doigt en pharmacie, et vous voyez si vous avez défense immunitaire, c'est déjà ça.
Oui, c'est pas non plus...
Moi, si vous en avez, vous savez que vous avez été asymptomatique et que vous l'avez eu.
Allez, on marque une petite pause, on se retrouve dans un instant, on va revenir sur la polémique Valeurs Actuelles, Daniel Obono. Est-ce que cet article, c'était d'ailleurs pas un article, c'était une uchronie, c'était une
fiction.
C'était une fiction. Dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous avez suivi, et on va parler de l'emballement à chaque fois qu'il y a un sujet comme celui-là. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, on est ensemble et nous commentons les sujets qui font l'actualité. Avec aujourd'hui Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Lunise Marquis, consultante en relations publiques, Alexis Poulain, journaliste, j'ai mis l'enjeu, voilà, journaliste directeur de la publication du Monde Moderne, et Jean-Luc Benamias qui est avec nous depuis Marseille. Donc ce week-end, énorme polémique après la parution dans Valeurs Actuelles d'une petite fiction autour de la députée Danielle Obono qui était dépeinte en esclave. C'est le dessin qui a suscité une vague de condamnation jusqu'au président de la République, figurez-vous, qui a appelé Danielle Obono. Donc c'est un récit de 7 pages qui, alors il faut préciser que ça fait partie d'une série qui a été publiée dans Valeurs Actuelles. La députée de Paris expérimente dans cette fiction la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage. Et les dessins donc illustrent Madame Obono avec un collier en fer autour de ce roman de l'été. Alors ces images ont évidemment fait réagir. Peu de gens ont lu le récit en lui-même et c'est vrai que ça a créé un emballement médiatique. Beaucoup de gens
insupportable.
Beaucoup de gens parce qu'il faut savoir aussi qui est Danielle Obono. Oui. Donc c'est une sorte de boomerang qui est très compliqué à assumer, puisque elle-même a craché sur Charlie Hebdo et sur les morts de Charlie. Elle a pleuré pour Dieudonné. Donc c'est très compliqué, mais beaucoup ont eu un soutien républicain.
C'est une extrémiste claire et clairement. Et j'ai lu 3 fois le texte dans Valeurs Actuelles, parce que d'abord il y a une habitude effondrante, c'est que les gens parlent de textes qu'ils n'ont pas lus.
Absolument.
Que ce soit les bouquins, les textes ou des émissions, ils ne les ont pas lus. Et ils embarquent parce qu'il y a un politiquement correct qui fait que elle est noire, donc elle est forcément victime, ce qui est insupportable. Ce texte, j'ai vraiment cherché où était le racisme. Je l'ai lu 3 fois, j'ai pas trouvé.
Le dessin était choquant.
Mais non, le dessin, c'est une fiction où on la replace dans un contexte de l'époque, il y a 2 siècles, où on la replace et on la met. Qui aurait-elle été à cette époque-là ? Il faut rappeler que la dernière fiction de Valeurs Actuelles, on condamnait à mort, il était guillotiné, François Fillon. On faisait mourir Zemmour
à Waterloo.
Donc, c'est, vous savez, les feuilletons de l'été qui sont décrits. D'ailleurs, ce texte est pas mal écrit. Je trouve que ce texte, elle la valorise presque. Enfin, elle est une femme forte dans le texte. Et moi, j'ai bien aimé l'image. Enfin, si on la connaissait pas, on se disait c'est une femme forte. Que le président de la République est vraiment, j'aime bien Macron, mais aille lui téléphoner pour dire qu'elle est discriminée. C'est pas possible, il a pas lu le texte, pas possible.
Lunise Marquis.
On ne sait pas ce que le président a pu dire à madame la députée.
Alors c'est vrai que c'est une élue.
Tout ce que l'on sait, c'est que si on garde que l'image, c'est choquant pour la représentation qu'on peut avoir. On représente pas une députée de la République de cette façon-là.
Ensuite,
le plus marquant dans cet épisode, c'est de se retrouver face à une Danielle Obono qui a une position anti-républicaine, qui tient des propos assez hallucinants, proches des racialistes, des indigénistes, et bien entendu de tout ce qui est ce racisme-là dont on ne veut pas entendre.
Nique la France.
J'ai fait partie des personnes qui ont eu une interview par Valeurs Actuelles, tout comme Alexis Corbière, Emmanuel Macron, Marlène Schiappa, parce qu'ils interrogent tout le monde. C'est un journal de droite, clairement, mais il faut parler à tous les médias. Je n'ai jamais été sectaire, j'étais maire adjointe à la mairie du 12e pendant 12 ans, et pour moi, il était important de parler aux différents médias. Par rapport à cette image, je sais que ça peut choquer, surtout qu'on est dans une période que moi j'appelle une ère Robespierre, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de camp du bien.
Ouais.
Il faut couper la tête à tout ce qui ne peut pas être bien. Donc ça veut dire détruire des statues, renommer des rues, tout changer, effacer, gommer l'histoire, et ça, ce n'est pas possible. Souvent sur Twitter, j'ai été traitée de négresse de maison. de noir de service et tous ces magnifiques mots, tout simplement parce que j'aime la République et que je suis j'ai des valeurs fortes sur ce que sur ce qu'est l'égalité, sur ce qu'est la fraternité, ce qu'est l'équité, et toutes ces personnes dont Daniel Obono font partie des personnes que je combats politiquement. Je pense que malheureusement, Valeur Actuelle a donné la possibilité à Daniel Obono de pouvoir se victimiser. Et ça, ça c'est vraiment une grande faute, parce que ils auraient pu faire autre chose. Après, c'est une uchronie, personne n'a lu, mais juste l'image en elle-même pour des personnes de couleur ou même autres, est choquante, parce que par rapport au drame de l'esclavage, par rapport à l'histoire qu'on peut avoir en France, tout ce passage-là reste compliqué.
Et est-ce que c'est pas, alors c'est vraiment une question que je pose, est-ce que c'est pas de mettre en scène cet esclavage, au contraire de dire à quel point, d'ailleurs ça a été effroyable, navrant, etc. Est-ce que gommer ce qui a existé n'a pas d'intérêt ?
Alors moi, je ne veux pas qu'on gomme mon histoire. Je suis née à Haïti. C'est la première république noire. Mes ancêtres sont des esclaves et ça fait partie de moi. Ça définit pas ce que je suis actuellement, mais ça fait partie d'une histoire qu'on a eue pendant très longtemps. Donc je renie absolument pas cette histoire. Et c'est pour ça que je trouve ça totalement paradoxal de se retrouver dans cette espèce d'embrouille, parce que Daniel Obono ou d'autres, je pourrais citer Rokeya Diallo, sont africaines, sont d'origine africaine, sont françaises bien entendu maintenant, et si on remet par rapport à l'histoire de l'esclavage, leur famille ou leurs descendants, elles descendent de personnes qui ont fait partie de la traite négrière, qui ont vendu des personnes de noires. Donc, à chaque fois, quand elles reprennent l'histoire en essayant de se faire passer pour les Angela Davis du 21e siècle, c'est fort de coton.
Ouais.
C'est joli, ça va bien avec le propos.
Jean-Luc Benhamias.
Oui, bon, d'une part, Valeur Actuelle n'est pas un journal de droite, c'est un journal d'extrême droite totalement assumé, qui a réussi un coup de pub pour la rentrée.
Je ne crois pas, ils sont désespérés. Non, Jean-Luc, on ne peut pas dire ça.
Je n'ai pas fini. Ouais,
allez-y.
J'exprime un certain nombre de choses. Alors,
allez-y.
Pas des choses un peu plus complexes, toi aussi. Hein. Voilà, mais j'exprime le fait que, voilà, bon, le coup de pub est total. Bien sûr, j'ai bien lu, j'ai relu. Le rédacteur en chef adjoint s'excuse, platement, on ne recommencera plus, voilà. Bon, après, moi, je veux bien qu'on confonde tout, hein, Luniz, mais Diallo, c'est pas Obono, c'est compliqué. Le racialisme,
c'est pire.
Les indigénistes,
c'est pire.
Mais c'est compliqué. C'est beaucoup plus complexe
c'est
que ça.
C'est pire parce qu'elle est représentante à l'Assemblée nationale, donc c'est pire.
J'ai revérifié pendant que les autres parlaient les histoires de Obono par rapport à Charlie et par rapport à Dieudonné. Plus complexe que ça, là aussi, quand on reprend les textes tels qu'elle les avait exprimés. Complexité ne veut pas dire que j'assume totalement ou j'approuve un certain nombre de débats sur racialistes ou indigénistes, parce que ça, pour moi, c'est l'anti-république par excellence. Mais essayons par rapport à ça. Voilà, donc Valeur Actuelle a fait un coup. Pour eux, c'est tout bénef, hein, parce que Valeur Actuelle, depuis quelques années, moi, j'ai connu Valeur Actuelle comme d'autres, hein, qui tiraient à 10 000, 15 000 exemplaires. Sachez aujourd'hui que Valeur Actuelle, tant mieux pour eux, hein, vendent à peu près 80 000, 100 000, 150 000 exemplaires. Ce qui est énorme pour un canard d'extrême droite. Voilà, donc ils continueront, ils n'existent
pas. Pourquoi d'extrême droite ? D'extrême droite ? Moi, j'aime pas du tout. Enfin, extrême droite, pour moi, c'est complètement autre chose. C'est un journal très à droite, conservateur, mais je ne crois pas que ce soit extrémiste.
On va pas faire ce.
Non, mais quand même, ça, c'est plus fort extrême droite pour moi.
C'est ça, c'en est un. Alors, intéressé ce que je dis, moi.
D'accord.
Alors, on a une auditrice, on a Yamina en ligne qui voulait réagir. Bonjour, Yamina.
Oui, bonjour Valérie.
Bonjour.
Sur l'antenne. Voilà, je voulais intervenir par rapport au sujet que vous êtes en train de traiter. Et je voulais prendre la défense de Valeurs Actuelles. Je suis scandalisée de considérer ce journal comme étant un journal d'extrême droite. C'est un journal tout à fait respectable. C'est un excellent journal. C'est un excellent journal. Et puis, je suis scandalisée par l'escalade que ça prend, cette affaire de Madame Obono. Que Madame Obono puisse être scandalisée, puisse être choquée, que je le comprends tout à fait, puisse être indignée d'être présentée comme esclave. C'est choquant, je suis entièrement d'accord. Mais arrêtons tout de même d'inverser les choses. Il y a un mérite dans la fiction, dans l'article en l'occurrence, de Valeurs Actuelles, que je répète est un excellent journal, et certainement pas d'extrême droite, conservateur, ils ont le droit, de rétablir une certaine vérité historique. Voilà, donc l'esclavage,
je suis d'accord.
Beaucoup l'ont pratiqué, beaucoup l'ont subi, les Noirs, les Arabo-Musulmans, les Blancs, et qu'il n'y a pas que les Blancs, qui sont responsables de tous les malheurs du monde. Voilà. Et puis, une seconde chose, moi, ce que je trouve dangereux, c'est le discours du mouvement que Madame Obono soutient, c'est son droit d'ailleurs, les indigénistes qui destinent un message et un discours assez dangereux et qui fait monter la haine et la division. Donc c'est un discours racialiste qui fait monter la haine et la division au sein du peuple français et qui participe de toute façon au climat ambiant, à la déconstruction de la nation française. Donc l'esclavage, tout le monde l'a subi, noir, tout le monde l'a pratiqué, noir, blanc et africain, et mes ancêtres l'ont subi. Hein, donc je suis d'origine berbère, mes ancêtres l'ont pratiqué et l'ont subi aussi. Ça fait partie de l'histoire. L'histoire n'est pas toute blanche. Il y a des mauvais, il y a des épisodes regrettables, il y a des épisodes, mais ça fait partie de notre histoire. Point barre. Ouais. Donc
mais c'est vrai, franchement,
il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors qui se scandalise, ouais. Qui s'est scandalisé de toutes les déclarations de Madame Obono, allez, la dernière, enfin peut-être pas la dernière d'ailleurs, je parle pas des autres, d'avoir pointé du doigt la première chose qu'a fait Madame Obono, d'avoir pointé du doigt la blancheur de peau du Premier ministre. Quelqu'un s'est scandalisé? Qui se scandalise de l'intrusion de la Ligue de défense des droits des Noirs au niveau du siège de Valeurs Actuelles? Alors quoi, on va aller les clouer et au pilori? Qui se scandalise des déclarations de certains journalistes? Je trouve ça vraiment minable. D'interdire des plateaux les journalistes de Valeurs Actuelles. Mais c'est quoi ce deux poids deux mesures?
Oh, ils sont pas interdits de plateau, hein, ils sont régulièrement.
Non, il y a Geoffroy Lejeune,
le Tube d'Al, ouais. Denis qui vient régulièrement aussi, enfin on a régulièrement Alexis Poulain, c'est son intervention est très juste. C'est vrai qu'hier la Ligue de défense, la LDNA s'est introduite dans les locaux. Juste la phrase qui a été dite par le président: à ceux qui pensent que la France est à ceux, est à eux, on vous dit que dorénavant on occupe le terrain, etc., etc. C'est alors, fini la France de Gaulle. Donc pourquoi on a
pourquoi la République,
elle a raison, pourquoi on s'indigne? Effectivement, Lunise Marquis a stigmatisé, pointé du doigt la blancheur du Premier ministre.
Tant que le débat sera sur la couleur de peau, les oppresseurs auront de beaux jours devant eux. On parle d'histoire qu'on ne connaît pas. Sur l'histoire africaine, en Europe, on est nul. On ne connaît pas les empires africains, on ne connaît pas l'histoire de l'Afrique. On connaît l'histoire de la colonisation européenne de l'Afrique. Et ça, c'est grave. Parce que derrière, il y a effectivement des histoires beaucoup plus complexes entre le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, etc. Et là, on arrive avec une connaissance tout à fait tronquée, tout à fait européanisée de ce thème-là. Il y a aujourd'hui une réalité, c'est que vous avez les Émirats Arabes Unis, vous avez des images du Daily Telegraph qui sont sorties sur des camps, soi-disant Covid, où des migrants africains sont parqués, certains meurent à l'appel, se suicident, quasiment nus, sans intimité, à plus de 50 dans la cellule, avec une température, je n'en parle pas. Vous avez les camps d'esclaves en Libye aujourd'hui. Mmh. L'esclavage aujourd'hui, il existe, il est réel. Plusieurs millions de personnes sont aujourd'hui esclaves.
En Mauritanie,
j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de ce problème,
absolument.
Plutôt que de l'histoire. Parce que c'est vraiment faire un débat là où on peut passer très vite à autre chose. Ouais. Le racisme, oui, c'est condamnable, il y a des lois. Très
puis
bien.
On ne changera rien sur le passé.
C'est pas une opinion, le racisme, c'est condamnable.
Un délit.
C'est un délit. Point. Maintenant, parlons de l'esclavage contemporain, parce qu'il est là le problème. Ouais. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'esclaves.
Ouais. Sauf que ça intéresse moins que...
Et surtout des femmes, d'ailleurs.
Vous avez le patron Valeurs Actuelles qui fait du commerce sans aucun problème avec les Émirats, qui traitent de la façon dont je viens de le dire, les migrants. Donc voilà, c'est le problème.
Valeurs Actuelles qui fait du commerce avec les Émirats.
Le propriétaire. Ah.
Qui est le propriétaire? C'est un homme d'affaires.
Ah oui. Qui fait beaucoup de bon commerce.
Oui. Alors, il faut faire attention parce que d'ailleurs, c'est très intéressant. Les propriétaires des groupes de presse et des journaux n'ont rien à voir avec les rédactions. Oui, il y a des propriétaires qui n'ont jamais la moindre influence. Et ils s'en plaignent.
L'indignation est à géométrie variable. J'aimerais qu'on s'indigne pour les vrais graves problèmes. Alors, le racisme est un délit en France. Heureusement, c'est le cas. Donc, il n'y a pas besoin de refaire un énième débat là-dessus.
Je vous conseille de lire dans Causeur, le magazine d'Elisabeth Lévy, le papier d'Imamet, rien à secouer d'Obono et de Valeurs Actuelles. Voilà, c'est une bonne
remarquable article.
Voilà, allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. L'insécurité qui est en train de remonter dans le sondage IFOP Radio et CNews, dans les préoccupations des Français. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, délinquance, insécurité, l'État est-il dans le déni? On en parle à l'occasion évidemment de plusieurs faits qui se sont passés pendant l'été. Et puis à l'occasion de l'apparition de ce sondage IFOP pour Sud Radio et CNews, la lutte contre l'épidémie du Covid est considérée comme tout à fait prioritaire pour 78% des Français. Mais juste derrière, la lutte contre la délinquance représente 70% des interrogés, 70% des Français se disent inquiets contre 44% au mois de mai. C'est vrai que la rentrée a été marquée par des faits divers violents, des agressions, des refus, chauffeurs de bus à Bayonne, gendarmes dans le Lot. On voit des images d'automobilistes qui foncent sur des policiers. La responsabilité pénale des mineurs, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de banalisation de la violence. Le président de la République l'a reconnu. Maintenant, on lui demande de passer aux actes. Je ne sais pas qui veut prendre la parole sur le sujet. Alexis. Alors,
moi, j'en parlais ce matin dans mon éditorial sur l'autorité légitime. Il y avait un rapport qui date de 1977 d'Alain Perfit pour Réponse à la violence, où tout était écrit à peu près sur l'éducation, sur la ségrégation, sur pourquoi, etc. Alors on peut dire que ça a augmenté, oui, les statistiques le prouvent, le bilan de Castaner est lamentable en l'occurrence, et oui, la violence, bien les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, ont été incapables d'y répondre. Aujourd'hui, ça revient sur la table, de manière cyclique, parce qu'on est en année préélectorale, on commence déjà à regarder si c'est un thème porteur pour 2022. Donc c'est toujours un thème porteur, l'insécurité, parce que malheureusement, oui, c'est un des devoirs de l'État, c'est de protéger, et il faillit systématiquement, et ce depuis plus de 40 ans.
Ouais.
Alors que on aurait pu, plutôt que de faire des politiques de la ville, à l'époque déjà, commencer à orienter l'éducation autrement, à orienter les politiques vis-à-vis des mineurs délinquants autrement.
Ce qu'il aurait fallu faire, on le sait.
Oui, mais seulement
après,
on ne l'a
pas fait.
On est
dans le résultat,
c'est bien joli de dire,
on a les conséquences de
Monsieur
tout ça.
Sarkozy a démantelé la police de proximité, donc on va remettre des policiers de proximité. Donc on défait, on refait, mais c'est trop tard.
Oui, enfin,
on va remettre des juges.
A démantelé tout ce qu'avait fait Rachida Dati.
C'était
pas mal pour les jeunes.
Une histoire de faire, défaire, refaire.
Voilà, exactement.
Pour toujours avoir le même constat, c'est de pire en pire. Donc à un moment, je veux bien que Emmanuel Macron soit pétri de bonnes intentions, hein, mais je crois que c'est d'abord des bonnes intentions électoralistes.
Alors, il y a aussi un problème, c'est que à leur décharge, et actuellement, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, je ne vois pas comment on peut restaurer la sécurité dans les rues en particulier, etc., si on ne mêle pas à ça la justice. Parce que le problème, c'est qu'on peut arrêter un jeune, on peut être beaucoup plus présent dans la rue, on peut, etc. Quand vous avez le type qui refuse d'obtempérer devant un flic et qui lui dit n'importe quoi, etc., quand vous avez le jeune, etc., et qui sont relâchés instantanément, qui ne restent pas même en garde à vue. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la peine de dire qu'il faut remettre de la sécurité de proximité dans les rues. Enfin, si, bien sûr, c'est la peine de le dire. Mais ce que je veux dire, il faut absolument que la justice suive et que ce soit en même temps. C'est une action conjointe qui doit être faite.
Jean-Luc Benhamias.
Je participais sur Sud Radio pendant l'été à un débat avec deux spécialistes intellectuels, chercheurs, qui travaillaient sur le chiffrage réel des politiques de sécurité et du chiffre réel de l'insécurité dans notre République. Les deux étaient d'accord, pas sur tout, pour dire qu'il n'y avait pas d'augmentation. Mais évidemment, les choses sont extrêmement visibles. Valérie, tu as raison, quand on est sur des chauffeurs de bus qui se font agresser, puis c'est pas une fois, c'est deux fois, c'est trois fois, et puis dans certains quartiers, On sait bien que en bas des immeubles, c'est pas génial, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc il y a, j'aime pas employer ce terme-là, l'idée de sentiment d'insécurité, parce que ce sentiment existe, mais les gens ont l'impression effectivement de vivre dans une vie difficile. Oui, c'est difficile. Alors, et la période n'est pas simple par rapport à cela. Moi, mais je ne crois pas hein, que j'avais donné un exemple pendant ce débat sur Sud Radio au mois d'août, qui était, j'ai pas l'impression qu'au Moyen Âge, on vivait plus en sécurité.
C'est, oui, une autre époque.
C'est une autre époque, je ne sais pas, là pas c'est vraiment le grand écart.
Mais
c'est vrai que certains disent qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la délinquance. On remarque quand même un comportement beaucoup plus agressif.
Il y a un véritable sujet, sur le déni en fait. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où on ne peut pas utiliser les bons mots pour décrire des choses qui sont simples, parce que tout de suite, on est taxé d'extrême droite, ou de facho ou autre. Alors qu'il y a des mots assez simples quand on parle d'une personne qui a eu une attitude, l'incivilité, c'est une attitude où on ne tient pas à la porte à la personne qui arrive derrière nous. Oui. On claque la porte, ça
et
c'est l'incivilité.
Et maintenant, tout est sa civilité.
Le président de la République qui a employé le mot d'incivilité.
Arracher une montre ou autre, c'est une agression. Et donc, il faut utiliser les bons mots. À un moment, on peut pas avoir les yeux fermés comme ça sur ce qui arrive actuellement. Ça fait longtemps que des choses ne vont pas, mais il y a eu une montée de l'agressivité et une montée de l'impossibilité de discuter calmement de certains sujets. On le voit partout, donc c'est quelque chose qui arrive souvent. Mais le gros problème, c'est pour moi, c'est l'instruction. Et pourquoi j'utilise ce mot d'instruction ? C'est parce que souvent, on met les mots sur l'éducation nationale, mais en fait, les parents doivent éduquer leurs enfants, et l'éducation nationale doit instruire.
Absolument.
Et tant qu'on n'aura pas repris toutes ces bases-là, et qu'on n'aura pas mis les parents en face de leurs responsabilités, on n'a pas un enfant juste parce que ça fait bien d'avoir un enfant. On a un enfant parce qu'on l'aime, parce qu'on on l'éduque, et on lui apprend à devenir le futur citoyen, le futur homme ou femme.
Donc quoi ? Donc, allocations familiales, supprimer les allocations familiales pour responsabiliser les parents ?
Peut-être une responsabilisation de tous les parents en ayant un cycle peut-être de formation qui serait géré par la caisse d'allocations familiales pour dire ce que c'est déjà que la France, pourquoi on aime ce pays, pourquoi on veut être citoyen.
Et à la limite, c'est un autre sujet parce que le français, il est supposé savoir pourquoi il aime la France.
Ça fait partie de ça, parce qu'on a l'impression qu'il y a une dilution.
Je pense qu'il y a un problème sur le rapport à la violence.
Le rapport à la
l'éducation
violence.
L'éducation à la violence.
Oui,
c'est pas une éducation sur l'amour de la France ou quoi. C'est comment se fait-il que des jeunes aient ce rapport intime à la violence où finalement ça leur fait pas peur.
Regardez la télé, les programmes de télévision.
Alors ça, il y a eu le scandale des jeux vidéo, de la télé.
Non, mais tous les soirs, c'est des crimes.
Non, c'est vraiment sur un problème d'éducation à la violence. Quand on pense que... soit on vit dans un bain de violence et pour nous, c'est naturel d'utiliser la violence, soit c'est quelque chose de profondément exogène et dangereux.
La violence, c'est l'ultime action quand on n'a pas les mots pour pouvoir décrire les choses.
C'est vrai, quand on n'a pas de vocabulaire,
donc il y a vraiment la question de l'instruction et de ce qu'on apprend à ces jeunes. Parce qu'on peut...
Il n'y a pas que des jeunes.
Non,
mais c'est parce que tout à l'heure, on a parlé de la responsabilité pénale des mineurs. Ouais. Et malheureusement, quand on se retrouve à ce qui s'est passé lors de la défaite du PSG et que beaucoup de mineurs ont été arrêtés, je suis désolée, je ne peux pas dire autre chose que le mot, c'est des jeunes. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Pourquoi les parents ne sont pas plus responsables de leurs enfants ? Qu'est-ce qui s'est passé ? À un moment, on peut se dire tout ce qu'on veut et dire ce n'est pas de leur faute, etc. Mais les parents ont un devoir envers leurs enfants.
Mais les parents, alors, il y a quelque chose d'important, c'est que moi, je suis très pour la prise de conscience de la responsabilité individuelle. Chacun peut se poser la question. Au volant, les gens vous insultent très facilement. On n'a jamais été aussi grossier. Dans la rue, partout, vous n'avez aucune patience. Quand vous vous faites insulter dans la queue si vous bougez d'un mètre.
Un refus de l'ordre.
Oui, mais je pense que ça dépend vraiment. C'est une responsabilité individuelle de chacun.
Collective
et chacun
aussi.
Peut se poser la question.
Je pense qu'il y a un problème de réponse aussi du corps social, de solidarité. Tout le monde a peur. Le problème, c'est qu'à un moment, quand vous aviez quelqu'un avec un comportement violent, vous aviez la foule autour qui disait arrêtez. Maintenant, en général, on dit oula, mais peut-être qu'il est armé, peut-être que les autres ne vont pas bouger, donc je ne vais pas bouger. Donc il y a aussi ce côté individualiste qui fait que on en arrive là.
Et malheureusement, il y a des faits divers qui ont montré ça. Le oui. jeune marin qui s'est bien fait sûr. Tabasser parce qu'il a défendu un couple qui avait juste le malheur de s'embrasser, et ça a insupporté des barbares, je les appelle comme ça, vu l'état dans lequel il est encore marin à ce jour. C'est ça le souci, c'est que est-ce qu'on réussit collectivement à se dire quand une jeune fille se fait suivre et agresser, on va vers elle en disant ah comment tu vas, on avait rendez-vous, pourquoi t'es en retard et tout ça, et donc on discute pour la sortir de la situation.
Mais c'est pas toujours facile.
C'est pas évident de faire ça. Parce que l'agressivité est tellement élevée.
Mais là, la question, c'était sur la réaction du gouvernement. Quand on voit Gérald Darmanin qui dit je vais interdire et condamner tout le trafic de drogue.
Enfin, il a plus à moi. On peut essayer de lui donner une petite chance.
Jean-Luc, un mot sur ce que vous avez entendu.
Je ne change pas vraiment d'opinion par rapport à ça. Je pense que c'est un vrai sujet de rassurer, d'être rassurant. Voilà. Après, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas partout de l'insécurité, ce n'est pas vrai. Il y a des endroits, oui, où il y a de la sécurité. Je le répète, il faut une police de proximité. Ouais. Et puis, il faut remettre des éducateurs par rapport aux jeunes.
Mais c'est trop tard. Il faut le faire, mais c'est trop tard aussi, non ? Il y a un moment où c'est trop tard.
Il faut tout faire en même temps.
Il y a beaucoup à faire.
Beaucoup à faire, tout en même temps, il faut tout reprendre.
Merci à tous les quatre. Dans un instant, vous allez retrouver André Bercoff. Et puis nous, on se retrouve demain à 10h. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio.